Bonsoir à tous. La rentrée parlementaire a bel et bien eu lieu mardi 15 mars 2016 ici à Kinshasa. Pendant que le Sénat a dressé le bilan de ses 9 ans d'existence et des 10 ans de la Constitution, l'Assemblée nationale, elle, a annoncé une session nécessairement politique, selon Obem Minaku, évoquant le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila et qui ne s'est pas encore tenu. Et puis, les bureaux définitifs des assemblées provinciales devant organiser l'élection des gouverneurs sont enfin connus. La majorité présidentielle arrache la présidence des 17 bureaux sur les 21. Côté opposition, le MLC s'impose dans 3 provinces de l'ex-Équateur. Voilà l'ossature des débats dans la tribune de presse de ce vendredi 18 mars 2016. Et pour en parler, je reçois dans ce studio Innocent Kaboukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Innocent, bonsoir.
Bonsoir, Berry.
Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Élisée, bonsoir.
Bonsoir, Berry.
Et Baudouin Saïlé, éditeur responsable de La Chopo, un journal qui paraît à Kinshasa et distribué à Kisangani et dans toute la partie est de la RDC. Baudouin, bonsoir.
Bonsoir tout le monde, bonsoir confrère.
Et nous ouvrons la tribune de presse avec la revue de presse qui porte la signature de Kéline Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. À la une de Forum des As, on peut lire en jeu de la session de mars au Parlement, dialogue, Obem Minaku annonce les couleurs. Le journal rapporte que durant ce forum national et encore plus après, nous sommes appelés à nous assumer avec plus d'attention, à régler des situations d'incompréhension, d'où qu'elles viennent et à prendre des décisions, prévient le speaker de la chambre basse. À l'antipode, le quotidien La Prospérité relève qu'alors que Minaku prône le dialogue, Kengo exige le respect de la Constitution. En plus des lois essentielles, explique la consoeur, les défis politiques du moment ont obligé les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale à se montrer très politiques. Léon Kengo célèbre les 10 ans de la Constitution dont il a vanté les mérites. Et à l'Assemblée nationale, Obem Minaku attend tout du dialogue politique convoqué par le président Kabila, renchérit La Prospérité. Aussi, le quotidien du groupe L'Avenir lance-t-il l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars au Sénat et souligne que pour Kengo, la Constitution actuelle est le fruit d'un consensus politique obtenu à Sun City. Dans la même veine, le tabloïd Le Phare se fait écho des propos du président du Sénat, Kengo. La Constitution est complète, démocratique et stable, et ce, de celui de l'Assemblée nationale Minaku, cette session se mouvra dans une ambiance préélectorale. Et puisqu'on en parle, le journal Forum des As signe en manchette processus électoral, le Canada octroie 3,5 millions de dollars à la CENI. Changeons de registre pour parler élection des bureaux des assemblées provinciales de 21 nouvelles provinces. L'Avenir titre sur l'élection des membres du bureau des assemblées provinciales et renseigne que la majorité présidentielle a raflé la mise. Pour le tabloïd, les résultats du vote indiquent que la majorité présidentielle a remporté les élections haut la main dans les différents bureaux où la majorité des présidents des assemblées provinciales appartiennent à la MP. Et sur www.radiocapi.net, on peut lire « La majorité présidentielle a remporté samedi 12 mars 2016 la présidence des 17 assemblées provinciales pour l'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales des 21 nouvelles provinces. L'opposition avec le MLC va diriger 3 assemblées provinciales dans l'ancienne province de l'Équateur et la présidence d'une assemblée revient à un candidat indépendant. »
Merci Kéline Kouté. Dans l'actualité, sachez que les Nations Unies se disent très préoccupées par la restriction des libertés fondamentales en RDC et surtout la répression constante des activités de la société civile. C'est une citation que je referme en réaction à l'arrestation mardi des 18 membres du mouvement citoyen Lucha. Ces activistes manifestaient pacifiquement pour réclamer la libération de leurs camarades Fred Bauma et Yves Makwambala, arrêtés depuis le 15 mars 2015, voulais-je dire. Innocent, quelle lecture vous faites de cet appel des Nations Unies?
Oui, cela, je crois que, excusez-moi, répond au vœu général de libérer davantage l'espace politique dans la République démocratique du Congo. On a décrit déjà la semaine dernière la confiscation pratiquement par une seule famille politique de l'espace politique en République démocratique du Congo. Et donc, il est important qu'on comprenne que nous sommes dans une adversité et non pas dans un état où il y aurait des ennemis d'un côté, enfin des ennemis parmi les Congolais. Donc voilà ce que la première impression que j'ai sur cet appel des Nations Unies à ce propos.
Et entre-temps, Yves Makwambala et Fred Bahoma restent en prison selon l'avis de la Cour suprême de justice.
Et ce qui n'est pas une bonne chose, effectivement, parce que là, davantage, ça ne fait que polluer la situation politique en République démocratique du Congo.
Alors, Élisée, quelle analyse vous faites de cette situation ?
La situation, c'est vrai qu'elle reste à décrier par rapport aux arrestations de ces jeunes. Mais dire qu'il y a restriction de liberté, je crois que c'est quand même être trop extrême de la part de cette communauté internationale, parce que contrairement à d'autres pays, je crois que notre pays a quand même des espaces où les uns et les autres peuvent librement s'exprimer. Mais par rapport à ces différentes arrestations, moi je dirais qu'il y a, ça révèle quand même le sérieux problème qu'il y a au niveau plus de l'appareil judiciaire congolais qui ne fait pas très correctement son travail, rien à voir avec les restrictions, parce que je suis mieux placée pour dire que nous passons sur la radio Okapi, on peut s'exprimer comme on l'entend, comme on le veut. Moi personnellement, je dis tout haut, je suis dans une chaîne également où je peux parler, m'exprimer librement, faire parler les uns et les autres librement sans pour autant être inquiété. Mais c'est qu'il y a un problème, il faut le dire, qu'il y a un sérieux problème au niveau de la justice congolaise. Le président de la République a eu à le décrier lui-même, en reconnaissant qu'il y a des failles énormes au niveau des instances judiciaires ici au pays, mais quitte à dire globalement comme ça que c'est la restriction au niveau de la liberté d'expression, me geler, je ne sais pas, les uns et les autres. Je crois que c'est quand même être trop exprès et négliger les avancées qu'enregistre le pays, notamment comparativement à d'autres pays environnants.
Merci beaucoup. Alors, Baudouin, avec l'arrestation justement des 18 membres de la Loucha, c'était le mardi lorsqu'ils marchaient pacifiquement, est-ce qu'on peut parler du recul des restrictions de liberté ? Apparemment, Élisée et Innocent ne sont pas tous d'accord sur le communiqué des Nations Unies.
Je crois que avant de descendre dans la rue, ils ont tenu à demander l'autorisation à l'autorité établie, je crois. Et je ne sais pas à quel moment les troubles, si je peux m'exprimer ainsi, ont intervenu pour qu'il y ait arrestation. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement là-dessus. En journaliste chevronné, je devrais être sur le terrain, voir ce qui s'est passé et puis apprécier. Vous comprenez ? Alors, pour les deux autres là qui sont retenus en prison, je venais de suivre leur avocat. Et qui demeure confiant, il va se battre jusqu'au fond pour que la justice soit faite. Mais globalement, nous devons essayer de mettre un peu de l'eau dans le vin pour que les arrestations, ça ne donne pas bien. Vous comprenez, ça ne donne pas bien.
Donc pour vous, c'est aussi un recul.
Pas un recul, un constat. Un constat qu'on ne peut pas continuer, toujours arrêter.
Vous constatez le recul.
Je ne constate pas le recul, je constate tout simplement qu'il y a un fait qui est palpable, visible, mais qu'on doit faire un effort. Si les magistrats réclament leur argent, qu'on leur donne leur argent, c'est tout. Si avec l'argent, il va falloir faire mon travail, tant mieux.
Oui, Innocent, rapidement.
Juste un petit mot. Je voudrais rappeler à tout le monde ici que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, cela ne signifie pas seulement le fait que je parle comme je le fais devant ce micro, mais encore qu'il faut supporter, tolérer le contenu de mes propos. D'accord. Et donc ici, il me semble que dans le cas de l'arrestation de ces deux militants, c'est plus le fait d'exprimer leurs pensées, leurs idées sur la réalité sur terrain, et c'est ce qui fait qu'effectivement, cela n'a pas été supporté. Voilà pourquoi nous parlons du recul de la démocratie, et bien que le confrère ne veut pas le reconnaître, mais il n'y a pas de péché de le reconnaître.
Mais quel est le propos ? Élisée n'est pas d'accord avec vous.
Ça, oui, mais je concède, mais je crois que les auditeurs constatent avec moi que la liberté est freinée, elle est bloquée, il ne suffit pas seulement de parler, encore qu'il faut supporter le contenu de ce qu'on entend dire.
D'accord, on va passer à notre deuxième actualité de la semaine, c'est justement autour de la Société Nationale d'Électricité qui a organisé mercredi 15 mars une journée à porte ouverte à la place Sainte-Thérèse dans la commune Ndjili ici à Kinshasa. Il était question d'échanger avec la population de la Tchangou et lui expliquer les problèmes qu'elle connaît, les efforts en cours en rapport avec la fourniture d'électricité dans la ville de Kinshasa. Cette initiative a été accueillie de manière mitigée dans cette circonscription. Alors, Élisée, qu'est-ce que vous avez retenu finalement de ces journées portes ouvertes de la SNEL ?
Je tenais quand même à rebondir par rapport à ce dont on vient de parler. Très rapidement, je suis d'accord qu'il y a un problème au niveau de la liberté, mais dire comme ça qu'il y a recul, c'est quand même être extrême, parce que les uns et les autres peuvent s'exprimer sans pour autant être arrêtés, surtout dans le cas de nos jeunes de Loucha, ils avaient déjà rien dit parce qu'ils avaient muselé carrément leur bouche. C'est, voilà pourquoi moi je renvoie plus la balle au niveau de l'appareil judiciaire, les magistrats et autres qui ne font pas très bien leur travail. Et c'est là où on devrait plus marteler que dire globalement qu'il y a une restriction et par conséquent un recul de la démocratie.
Voilà.
Par rapport à la SNEL, voilà une société qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle organise des journées portes ouvertes dans un quartier VIP de la capitale. Et puis après, il a vu qu'il n'y avait pas d'engouement. Les gens en avaient marre parce que la prestation de la SNEL est tellement piètre, médiocre, qu'on ne peut plus faire confiance à ses dirigeants. Et ils disent oui, parce qu'ils ont entendu les uns et les autres dire, mais oui, il fallait ramener ça à la cité. Et ils sont allés, elle est allée à la cité. C'est une preuve que cette société ne sait pas ce qu'elle veut. Les dirigeants de cette société ne savent pas ce qu'ils veulent par rapport à cette société, on a besoin de résultats. On a besoin. Oui, c'est le courant à la maison, c'est dire non au délestage, c'est dire oui, on n'a pas de problème de FEDER, qu'on veut du courant, qu'on a besoin du courant. Et s'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas du courant, il faut dire nous emmener des factures qui sont adaptées à notre consommation de l'électricité et non continuer à nous facturer comme si on avait du courant 24 heures sur 24.
D'accord. Innocent, il y a certains habitants de la Tchangou qui ont affirmé comprendre la situation de la SNEL, mais comme l'a dit Élisée, il faudrait que la SNEL élabore une facturation conséquente. Qu'en pensez-vous?
Oui, la facturation conséquente, personne ne peut douter, hein, parce que moi-même, j'ai été invité, j'étais là pour le compte...
Ah, vous avez participé.
J'ai suivi... les interventions de la population, mais j'ai suivi aussi les réactions de tous ceux qui ont été commis à ces tâches-là, donc les agents de la SNEL, mais vous avez constaté qu'en réalité, ils n'ont pas de mots, ils ne peuvent rien dire, ils sont incapables, mais il faut les comprendre. Pourquoi on doit les comprendre? Mais parce que la question les dépasse. Moi, j'ai échangé avec un des directeurs là-bas, je lui dis simplement qu'il essaie de parler techniquement, alors que les gens n'ont pas besoin de ces techniques, les gens ont besoin du résultat, et donc la réalité, c'est qu'ils sont dépassés eux-mêmes. Pourquoi ils sont-ils dépassés? Mais n'ayons pas honte de le dire, politiquement parlant. Cette société appartient à l'État et l'État ne fait pas grand-chose pour que cette société travaille dans les normes. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que ce sont des pauvres, ils payent le prix, mais en réalité, notre doigt devait pointer vers notre gouvernement. C'est le gouvernement qui doit définir la bonne politique en matière d'électricité dans ce pays.
Baudouin, comme l'a dit Innocent, il y a quelques abonnés qui ont dit que la SNEL ne vaut pas la peine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces abonnés-là?
La SNEL a des problèmes. La SNEL dit « je ne fonctionne pas normalement parce que l'État me doit des millions de dollars ». Alors l'État propriétaire doit prendre en charge cette société nationale, y compris la Régie des eaux. Moi, je suis de Kisangani. Si la nuit tombe à Kisangani. Vous avez été à Kisangani? Non, hein?
Déjà.
Alors, de l'autre côté de Makiso. Makiso, c'est en fait le quartier voisin à Lubunga, l'autre côté du fleuve. Mais à Makiso, il y a timidement de la lumière ici et là, mais Lubunga, ça fait 20 ans, il n'y a jamais de lumière. Si les gestionnaires sont incapables de travailler, les décideurs politiques ont l'obligation de changer d'équipe.
Merci beaucoup. Et voilà, nous allons entrer dans notre premier débat de ce soir qui concerne la rentrée parlementaire. Et justement, comme on vous a annoncé dans le sommaire, les parlementaires ont repris le chemin du Palais du Peuple depuis mardi. Dans son mot d'ouverture, le président de la Chambre basse a mis l'accent sur le caractère politique de cette session. Obeminakou a affirmé qu'il sera question des débats républicains sur des questions importantes de l'heure, parmi lesquelles le dialogue national et la sécurité dans l'Est de la RDC. Pour cela, il a invité les élus à s'impliquer pour le salut de la République et la protection de la démocratie. On l'écoute.
Quels que soient les termes de référence du dialogue et les conclusions de ce forum, quelles que soient les interprétations des uns et des autres, ces recommandations, c'est nous, les élus du peuple, qui allons finalement trancher. Cela revient à dire que nous allons, au cours de cette session, nous organiser de façon plus méthodique afin d'accorder un peu plus de temps aux questions politiques majeures. Je note premièrement les conclusions du dialogue pour définir leur mise en œuvre. Deuxièmement, les questions les plus récurrentes actuelles. Il s'agit sur le plan sécuritaire de la poursuite des tueries, particulièrement en Ituri et au Nord Kivu. Il faut en débattre. Troisièmement, la problématique des 28 mesures du gouvernement face à l'impérieuse nécessité d'appuyer conséquemment les nouvelles provinces et de prendre en charge plus efficacement les attentes sociales pressantes, telles que l'accès à l'eau potable, à l'électricité, la réhabilitation des routes, notamment des dessertes agricoles, le renforcement du pouvoir d'achat, etc.
Cependant, a dit Obaminakou, les questions politiques n'excluent pas l'examen des lois importantes. Il s'agira entre autres la loi portant identification et enrôlement des électeurs et celle sur la répartition des sièges pour différents scrutins. Entre-temps, à la Chambre haute, le président s'est plutôt appesanti sur les 10 ans de la Constitution dans son mot d'ouverture. À en croire Léon Kengouadondo, la Constitution est stable, complète et démocratique, d'où son appel à l'appropriation de ce texte par le peuple congolais, mais aussi à la poursuite de la réflexion à ce sujet. L'occasion était également donnée à Kengo de faire le bilan du Sénat depuis 9 ans. Bref, cette chambre a rempli sa mission lui confiée par la Constitution, a-t-il conclu. On l'écoute.
10 ans de vie d'une Constitution est à la fois peu et beaucoup. Peu si l'on pense à la longue histoire constitutionnelle de certains États. Beaucoup si l'on songe à l'histoire particulière de notre pays, marquée par l'instabilité chronique de ses institutions et par le faible enracinement de la Constitution dans les mœurs. C'est la raison pour laquelle, même s'il n'a que 10 ans d'existence, la Constitution mérite d'être célébrée. C'est un moment important qui permet de dresser un premier bilan de son application et partant de son intériorisation par le peuple et par les acteurs politiques. Comme vous le savez, la Constitution actuelle est un pacte historique, politique, social qui scelle l'union du peuple congolais. Elle réalise un dosage subtil des principaux équilibres qui permettent à notre État d'exister et de fonctionner. Pour ma part, cette brève réflexion n'étant ni exhaustive ni exclusive d'autres types d'analyses, je vous invite à la poursuivre.
Dossier signé Mimi Nguma Mulongo. Et je rappelle que la tribune de presse de ce vendredi 18 mars 2016 reçoit Innocent Kabukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa, Élisée Oudia, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui est mise à Kinshasa, et Baudouin Saïli, éditeur responsable de la Tchopo, un journal qui paraît à Kinshasa et distribué à Kisangani dans toute la partie est de la RDC. Une question à tous les trois, messieurs et dames, comment avez-vous accueilli les deux discours de ces deux présidents? Je commence par vous, Innocent.
D'accord. Alors, ici, le contexte, c'est que nous avons deux positions. Je ne dis pas qu'elles sont diamétralement opposées, mais nous avons deux positions qui ne vont pas dans le même sens. Une espèce de parallélisme, avec espoir que ces deux parallèles pourront se rencontrer à l'infini. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, il met l'accent sur le dialogue. Mais là encore, il y a un problème. Quand on parle de dialogue, le terme est devenu vague depuis un certain temps. Mais le mot dialogue devait toujours, dans le contexte du Congo, avoir un attribut. Le dialogue selon le président Joseph Kabila, ou alors le dialogue selon ceux qui soutiennent la thèse d'Addis Abeba. Mais à ce moment-là, on est beaucoup plus complet, on peut comprendre le sens du dialogue auquel il fait allusion. Alors, de l'autre côté, vous avez le président Obaminakou qui insiste, et de manière subtile, pour rappeler tout le monde à l'ordre. Il faut rester dans la Constitution, et la Constitution a réglé l'essentiel des questions. Il dit, je cite juste un bout de phrase de lui, il dit que la Constitution est un moment fort, historique, qui reprend les aspirations politiques. Et donc, quand on parle du dialogue, on veut qu'on dégage une compréhension politique pour arriver à trouver la solution au problème du Congo. Alors que la Constitution a déjà réglé tout ça. Donc, ça signifie qu'on n'a pas forcément besoin d'un dialogue au goût d'une solution à un problème qui existerait, qu'on créerait de toutes pièces, mais plutôt un dialogue qui donnerait la possibilité aux uns et aux autres de comprendre qu'un État doit fonctionner normalement. Donc, c'est le schéma d'Addis Abeba.
D'accord. Alors, Élisée, comment vous avez accueilli ces deux discours ?
En suivant le président du Sénat, on se dit que là, on est en face d'un homme d'État. Quelqu'un qui sait se placer au-dessus des considérations politiques et appelle la population, les Congolais, à réfléchir autour des fondamentaux même qui constituent, autour desquels toute la population doit se fédérer. Les idéaux qui doivent constituer un État véritablement fort et véritablement émergent, comme diront certains. Et de l'autre côté, permettez-moi de dire que nous étions carrément en face d'un homme purement politique qui n'a pas su transcender, qui n'a pas su sauter ou se débarrasser de sa carapace de secrétaire général de la majorité. Et là, c'est quelque chose qu'on décrira toujours de la part du président de l'Assemblée nationale.
Et donc, vous avez eu l'impression que c'était...
Oui, c'était le secrétaire général de la majorité qui parlait. Raison de plus pour qu'on tenait, il aurait mieux fallu de trouver une autre personnalité pour essayer d'assurer. Parce que là, on ne sait pas en tant que qui parle. Je tiens à rappeler rappeler que c'est l'initiative est de l'institution président le dialogue. Et là, je me dis, mais Monsieur Minaku, de quoi je me mêle? Vous n'êtes pas habilité. On a entendu, c'est le président qui a convoqué. Et on ne sait même pas l'issue qu'est lui ce projet, déjà pour nous parler des recommandations, pour c'est de la récupération purement politique, et eux, on n'en a pas besoin. L'initiative émane du président de la République. Lui, il a eu l'opportunité d'initier un dialogue au sein de son institution, il ne l'a pas fait. Il n'y a qu'à voir comment se déroulent les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Il a laissé tout faire alors qu'il laisse le président gérer une initiative, sinon on risque encore de bondir, il est inféodé, ça on l'entend, l'initiative est venue de l'institution président, à ce que je sache, le président n'appartient, on peut dire, pas à la majorité, parce qu'il s'est toujours présenté en tant qu'indépendant. Et en tant que tel, le président de l'Assemblée nationale n'a nullement le droit de s'accaparer d'une initiative qui est du président de la République, et il ferait mieux d'enclencher un dialogue au sein de son institution, parce que jusque-là, on voit comment ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est pas vraiment de gaieté de cœur qu'on peut dire qu'on suit avec attention tous les débats, comment ça se passe au niveau de la Chambre basse du Parlement.
Merci. Baudouin, comment vous avez accueilli les deux discours?
Chers confrères, je vois que la RDC est à la croisée de chemin. Au moment où, à l'Assemblée nationale, on parle dialogue, et au Sénat, on fait allusion à la Constitution, moi, je vois que, quelque part, il y a du théâtre. Il y a du théâtre, laissez-moi le
mot. À quel niveau il y a du théâtre?
Je dis tout simplement que les hommes politiques ne peuvent pas prendre le peuple congolais en otage. Ça vient de moi. Donc, il est temps quand même que le président de la République, les spots passent chaque jour le soir, sur la RTNC, le dialogue que j'ai convoqué, que le président de la République prenne les dispositions utiles pour convoquer directement ce dialogue, qu'on avance quand même quelque part.
Et dans le fond du discours maintenant du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, qu'est-ce que vous avez retenu?
Les confrères ont bien analysé les choses. Je ne peux pas continuer à discuter sur un problème qui est trop clair. Je dis tout simplement que les chefs de l'État, en tant que grands de la nation, réfléchissent par deux fois et qu'ils prennent des décisions pour qu'on fasse le dialogue ou pas, qu'on avance quelque part parce qu'on est bloqué. Nous sommes des pères de famille, nous avons des charges.
Alors une sur le
dos, c'est très important. Oui, laissez-moi deux minutes.
Okay.
Nous avons des charges qui nous tire vers le bas. Vous êtes seul dans la famille avec 1000 personnes sur le dos, ça pèse. Nous voulons que le chef de l'État prenne les dispositions utiles pour que ce dialogue-là se fasse quand même voir au grand jour, s'il vous plaît.
D'accord. Alors, puisque vous avez la parole, au niveau de l'opposition, on affirme que le discours de Aubin Minaku est en déphasage avec les attentes de la population. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je demandais à l'opposition de s'organiser dans son chef pour qu'il y ait un chef de file de l'opposition. Vous comprenez? L'opposition doit faire
ça, c'est
le
professeur qui a analysé le discours du président.
Quelle opposition a analysé le discours? Qui est opposant qui ne l'est pas? Aujourd'hui, c'est ça, c'est l'imbroglio total. Qui est opposant qui ne l'est pas? Tout simplement, aux deux partis, la mouvance présidentielle et ceux qui se disent de l'opposition, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui ne devraient pas être dans l'opposition. Vous avez fabriqué la maison MP et parce qu'on vous donne plus de miel, vous êtes dans l'opposition, ça on voit.
Et donc, non, vous pensez que ça c'est de la...
Ça c'est... Non. Le peuple n'a pas besoin de l'opposition, de la mouvance. Le peuple a besoin de se réveiller le matin. Il voit... Tout à l'heure, avec Innocent, nous avons fait allusion à ce que c'est pas à Kinshasa. Les enfants ici à l'école primaire ou à l'école secondaire, dès qu'ils pleuvinent à 6h30, ils ne vont plus à l'école. Il ne va plus, il reste à la maison, en train de regarder la télévision, tout ça. Le peuple a besoin de minima. C'est-à-dire que il est vrai, les enfants allaient à l'école, même s'il pleut, ils donnent à l'enfant le parapluie, l'équipement complet pour qu'il aille à l'école. Vous voyez, c'est ça le souci du papa.
D'accord. Alors, Innocent, comment vous réagissez par rapport à cette classe politique de l'opposition qui affirme que le discours d'Aubin Minaku est en déphasage carrément avec les aspirations de la population?
Au stade actuel, on sait que la population n'a pas besoin de consommer les discours du président de l'Assemblée nationale. La population a besoin plutôt de choses concrète, voilà qui fait dire à l'opposition, évidemment. L'opposition se trouve toujours une possibilité de placer un mot parce que, en fait, dans sa mission régalienne en tant que telle, ne peut que voir là où les bas blessent pour essayer de récupérer la situation. Mais là, il me semble que l'opposition aborde réellement les aspirations de la population. Donc, c'est un discours qui est inutile. On l'a décrié tout à l'heure. Donc, la population a besoin d'autre chose. Être fixé sur cette année électorale nous devons avoir des élections dans les délais constitutionnels. Est-ce que cette constitution, il reste encore quelque chose qu'on peut sauver? Voilà les choses qui intéressent la population au stade actuel, et non pas nous parler de recommandations. Les recommandations, il y en a eu dans le cadre de ce contrôle parlementaire-là, mais on n'a jamais eu des résultats escomptés. Donc c'est un discours purement politique, je n'ai pas besoin d'y revenir, et ça ne retient l'attention d'aucune personne sérieuse, mais plutôt on a besoin de choses qui sont concrètes et non pas rester dans ce discours trop politique pour rien.
En parlant du dialogue, il y a aussi l'opposition patriotique républicaine de Mouchi Bonané qui a demandé la mise en place du comité préparatoire du dialogue national d'ici le 30 mars prochain. Sinon, ça c'est sans ses propos, la classe politique devra déclarer impossible la tenue du dialogue. Qu'en pensez-vous, Élisée?
D'abord, il faut mettre fin à ces genres d'ultimatums-là. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un peu comme on s'ablague avec la population. On en connaît, nous, des ultimatums. Il y a d'autres qui nous disaient, oui, au 1er février, au 31 mars. Non. Mais c'est un fait. Les politiciens doivent cesser avec. C'est faire du chantage, là. On n'en a pas besoin. Il faut nous donner des propositions concrètes, comme vient de le dire le confrère. Mais c'est un fait. Et ça fait quatre mois d'ailleurs, que le chef de l'État a promis la mise sur pied du comité préparatoire. Il faudrait bien, mais je crois que j'aurai le président de l'Assemblée nationale, puisqu'il s'est accaparé carrément cette proposition, cette initiative du chef de l'État. Il aurait dû également nous expliquer que devient cette ordonnance du chef de l'État convoquée. Je crois qu'il est juriste aussi. Il aurait dû également nous dire que devient cette ordonnance du chef de l'État convoquant le dialogue et mettant, appelant à la mise sur pied de ce comité préparatoire. Si dialogue il y aurait, il faudrait qu'on fasse ça. Mais parler des ultimatums, je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose dans le quotidien du Congolais. Qu'est-ce que veut le Congolais? C'est le respect. Le respect de quoi? Des différents droits et devoirs. Ces différents droits contenus notamment dans la Constitution. Pas seulement le droit de renouveler ses élus, mais c'est le droit à l'eau, c'est le droit à l'électricité, c'est le droit à l'éducation. Et je crois que ces politiciens-là, au lieu de s'attarder tout le temps à attendre soit le dialogue et d'autres peut-être, soit des élections pour changer, mettre une autre personne à la tête en lieu place de Kabila, il ferait mieux de nous proposer autre chose, d'emmener un autre débat pour essayer de participer à cette émergence et à l'épanouissement de toute de la population congolaise.
Et en même temps, on sait que dans le dialogue convoqué par le président Kabila, il était question de parler essentiellement du processus électoral. Baudouin, est-ce que vous pensez que le dialogue finalement résoudra le problème du processus électoral?
Si les deux partis se regardent en face pour dire que nous sommes des leaders, à gauche et à droite, et que nous sommes en train d'examiner un problème sérieux de la République, du devenir de la nation, je crois que ça peut produire des effets escomptés. Hein? La CENI dit que moi je suis technique, voici mes problèmes. Je dois faire ceci, cela. L'autre problème, c'est politique. Les politiques, organisez-vous. Mais ça va prendre tout un siècle, ce n'est pas normal. Hein, j'ai confiance que les deux partis, comme ils veulent tous regarder comme des chaînes de faïence, feront en sorte que demain, après-demain, ouf, le dialogue est quand même arrivé. Mais que ce dialogue arrive quand même là-bas pour qu'on écoute ce qui adviendra l'après-dialogue. On ne peut pas toujours de la supputation, des ultimatums, comme a dit ma consoeur, des ultimatums. Si vous ne faites pas ceci, on ne va pas faire ça. Non. Le peuple de ce pays a tant souffert avec des guerres, d'agressions, des rébellions. Moi, j'en suis témoin quelque part depuis mon jeune âge, à Bouta, à Isiro, à Kisangani, je n'ai jamais été tué. Non, ça c'est l'extrême, comme on dit ma consoeur, c'est l'extrême. Nous voulons, mais mon Dieu, aujourd'hui, l'élite, l'intelligence, les juristes sont partout. Dans l'opposition, il y a des juristes compétents qui sont là. À la moisse présidentielle, il y a des juristes qui peuvent se mettre ensemble pour discuter du devenir de la République démocratique. Mon frère, à gauche et à droite, les élections sont en train de se tenir. Hein. Demain dimanche, je crois, il y aura le deuxième tour au Bénin, où les deux challengers vont s'affronter devant le peuple. Mais nous aussi, nous voulons que ça se fasse. S'il y a des problèmes, qu'on en discute clairement, que voilà, on ne saura pas réaliser les élections en temps réel. On va faire ceci, pour qu'il y ait moins de casse.
Voilà. D'accord. On va parler quelques minutes du discours du président du Sénat, Kengo Wadondo. Innocent, dans certains milieux politiques, on dit que le discours de Kengo n'est pas très différent du discours d'Aubin Minaku. Qu'en pensez-vous?
Non, comment on peut dire ça? Non, mais c'est clair que le discours d'Obe Binaku est essentiellement politique, alors que le discours du président du Sénat, c'est un discours technique. En tant que juriste, il parle de la Constitution, évidemment. La subtilité.
Est-ce que ce sont des discours qui sont complémentaires?
Bon, je ne sais pas à quel point on peut trouver un point de complémentarité. C'est pour ça que je suis resté dans la logique qui voudrait que je vois ces deux discours dans une espèce de parallélisme. Et Dieu seul sait si ces deux parallèles peuvent se rencontrer à l'infini. Parce que je ne vois pas. Ici, on parle technique, des choses réelles. Il vous fait un bilan de 10 ans de cette Constitution et la possibilité de célébrer cette Constitution. Je vous dire.
Et il demande aussi de la respecter.
C'est ça le problème. Parce qu'en fait, quand il parle du temps qui serait un dépassement, donc beaucoup de temps et peu de temps, en fait, c'est subtilement qu'il le dit. Avec raison, Élisée disait tout à l'heure qu'on avait là devant nous un homme d'État. Il y a une subtilité qu'il faut comprendre. Ici, ça veut dire quoi? Tout ce que nous pouvons dire politiquement, mais sachez une chose, qu'il y a un élément régulateur, qui ne s'appelle pas autrement que la Constitution. Donc, au-delà des considérations politiques, donnons une place de choix à notre Constitution pour régler les problèmes de notre pays. Et c'est possible. Voilà pourquoi il chute par la volonté de son application. Il vous a fait voir une chose. Le président de la République est élu sur base d'un programme propre à lui. Mmh. Et alors que ce qu'il a relevé comme une espèce de dichotomie dans la Constitution, alors que le chef du gouvernement est appelé ainsi, chef du gouvernement est responsable de l'action gouvernementale devant l'Assemblée nationale, alors que le programme que le Premier ministre applique est essentiellement celui du président de la République. Avec raison d'ailleurs que chaque fois que le Premier ministre prend la parole, qu'est-ce qu'il dit sous le leadership du président de la République? C'est-à-dire que lui, il n'a rien, il n'est qu'un exécutant des aspirations du président de la République sur cette question. Et donc, ça devient compliqué pour appliquer une telle constitution. Mais qu'à cela ne tienne, sur l'ensemble, on considère que cette constitution, elle a son équilibre, elle a,
d'accord.
Elle vaut son pendant d'or.
Merci beaucoup. Alors, il va nous rester très très peu de temps. Alors, Élisée, très rapidement, vous nous faites part de votre appréciation du discours. En même temps, vous répondez aussi à la question de savoir quel bilan vous faites de la prestation du Sénat en 9 ans d'existence.
Bon Dieu, c'est du pur bonheur quand vous êtes au Sénat. Moi, j'assiste aux différentes séance plénière du Sénat, vous sentez quand vous êtes là, vous êtes en face des gens qui vont au-delà de leur clivage politique, qui parlent Congo, qui parlent nation, qui parlent comment ça doit se faire. Parce que peut-être on retrouve dans ce Sénat les différentes personnalités qui ont eu jadis à gérer le pays. Ils ont cette expertise-là et ça fait la nette différence avec l'Assemblée nationale. Loin de moi l'idée de dire que les députés, ils sont tous médiocres. Non, mais je crois que déjà, parce qu'à la tête, il y a une impulsion, il y a un leadership. Il y a un président qui impulse, qui donne une impulsion et qui fait en sorte que le débat soit différent et au niveau de du Sénat qu'au niveau de l'Assemblée nationale, juste par rapport au discours du président du Sénat, dire qu'il est allé au-dessus des sujets factuels. Il dit ça, c'est le dialogue, c'est quelque chose de factuel, ça. C'est pour un temps et on passera outre. Mais alors que la Constitution, c'est quelque chose d'assez fondamental pour le pays et qu'il faut savoir comment il faut préserver la Constitution et comment faire pour que cela ne puisse pas déraper un jour par rapport à ça.
Merci beaucoup. Et nous passons tout de suite à notre deuxième thème de la soirée qui concerne l'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales et la majorité présidentielle a remporté le samedi dernier, bien sûr, la présidence des 17 assemblées provinciales pour l'élection des ses bureaux justement sur les 21 nouvelles provinces et l'opposition quant à elle va diriger 3 assemblées provinciales et essentiellement dans l'ex-province de l'Équateur. Et la présidence d'une seule assemblée provinciale revient à un candidat indépendant. Ces institutions vont élire les gouverneurs et leurs adjoints le 26 mars prochain. Jacques Vonlima nous fait le condensé de cette élection.
Des 17 présidences qu'occupent la majorité au pouvoir dans les différents bureaux des assemblées provinciales, le PPRD rafle à lui seul 11 postes, notamment dans les provinces du Haut-Katanga, Tanganyika, Kassa-Oriental et Sankuru, mais aussi Okwilu. La MP dans son ensemble n'a pas lésiné sur les moyens pour rafler dans certains bureaux tous les postes. C'est le cas des bureaux des assemblées provinciales du Kassai, Kassai Central et Tchopo, pour ne citer que celles-là. Pour sa part, l'opposition politique s'est tout de même bien comportée dans les provinces issues de l'ex-Équateur et ex-province orientale. C'est le cas du Nord-Ubangi où le MLC occupe 4 des 5 postes du bureau, dont la présidence. Le parti cher à Jean-Pierre Bemba occupe également 4 postes dans le Sud-Ubangi, mais perd le poste du président. Au Bazuélé, l'opposition est aussi présente avec 4 postes qui reviennent au MLC, ACO et CDC. Toutefois, hormis les bureaux de l'Omami, Kassai et les Sankourou, qui ont respecté la règle de voir un opposant et une femme au sein du bureau, les autres bureaux des assemblées provinciales, soit ils ont plusieurs membres de la majorité, soit de l'opposition, et aucune femme.
Merci, Jacques-Yves Molima. Élisée, quelle lecture vous faites de cette élection?
Ben déjà, je commencerai par peut-être la dernière phrase de votre reporter, et qu'on trouve moins de femmes, aucune. Très déçu parce que la constitution elle a encore été violée.
Elles n'ont pas postulé.
Pas parce qu'elles n'avaient pas stimulé ces femmes, c'est constitutionnel. Il y en a, on les voit, on nous présente des femmes, mais quand il s'agit de mettre ces femmes là dans des postes de décision, on nous dit que non, il n'y a pas. Mais il y a qu'à voir dans des meetings de ces gens là, de ces différents partis politiques, ce sont les femmes qu'on voit. Mais pourquoi et on n'estime pas ces femmes à postuler, à briguer ces mandats? Non, je crois qu'il faut qu'on puisse mettre en place des mécanismes susceptibles de faire accéder également la femme à des instances de décision. Ce n'est pas parce qu'elle manque la volonté, mais je crois qu'il faut ajouter quand même une dose de bonne foi. Même pas moi de la femme oblige, mais ça ne doit pas être que pendant le mois de mars, mais ça doit être comme ça tout le temps. Par rapport au bureau, je peux dire carrément, c'est bon, on a une idée de ce que la majorité de comment est-ce que les nouvelles provinces vont être gérées. On sait que c'est carrément le reflet des prochains gouverneurs ou des prochains hommes forts qui vont diriger les nouvelles provinces, parce que je vois trop mal.
Mais ça fait 80% des bureaux des assemblées provinciales de la majorité. Vous êtes satisfait aussi?
Moi, ça ne dépend de moi que je sois satisfaite ou pas. Là, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des électeurs, de ceux, en fait, de comment les uns et les autres se sont organisés. Sauf que là, on est devant des gens qui veulent tout avoir et qui ont tout raflé. Je vois trop mal. Je ne pense pas qu'il y aura révirement de la situation, on va vers des nouvelles provinces entièrement acquises à la cause de la majorité présidentielle.
Merci beaucoup. Alors, Baudouin, la majorité a été accusée par l'opposition de mettre la pression sur des députés provinciaux. Qu'en pensez-vous?
Mon cher ami, la politique, c'est pas facile d'accéder au pouvoir. Hein. On s'arrache les cheveux pour accéder au pouvoir. La politique, ce n'est pas être à l'église au nom du père et du fils. Non, là, c'est autre chose. C'est le jeu de dames. Hein, le grand joueur de dames contrôle l'espace et il s'installe, c'est tout. Il n'y a pas de cadeau en politique, je vous assure. Ça, c'est la simple vérité. Moi, je suis ancien député, etc. Je connais un tout petit peu de ce qui se passe. Ce sont des coups bas. C'est comme sur le terrain de football, papa. Deux équipes qui s'affrontent. Vita Club et Imana. Alors, l'arbitre est un peu distrait, l'autre met coque à jambe et la tombe. C'est ça la politique. Vous comprenez? Mais nous voulons que ça se fasse en tenant compte des vertus républicaines. Vous comprenez? Aujourd'hui, la majorité a 17 assemblées provinciales. D'abord, je félicite la mise sous pied des assemblées provinciales parce que les intérimaires qui étaient là, les bureaux provisoires, oh, on a vu de toutes les couleurs. Il y a certains qui disaient que moi, je ne vole pas. Mais il est en train de voler l'argent de l'État. Le personnel administratif a souffert. Ça, je vous dis, il y a des exemples, les gens, vous comprenez. Alors, je félicite l'avènement des nouvelles assemblées provinciales. Et je demande aux élus, aux bureaux et aux députés qui sont là de choisir des prochains gouverneurs charismatiques, capables de remettre ne plus que l'eau à la cité, de faire des démarches au niveau des ministères pour que les villes soient éclairées sans l'électricité, point de développement.
D'accord. Innocent, comme je l'ai posé la question à Baudouin, l'opposition a dénoncé les méthodes antidémocratiques et il y a aussi la sortie de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Katanga dans son ancienne configuration, Kyungwa Kumwanza, qui a déclaré que la majorité s'est illustrée dans la corruption et les pressions sur les députés provinciaux de son ancienne province. Est-ce que vous partagez son avis?
Tout en le partageant, mais dans l'entretemps, je rappelle à M. Gabriel Kyungwa Kumwanza qu'il a traversé la rue il y a seulement une minute. Et donc, il en sait quelque chose. Quand il le dit, c'est parce qu'il sait que c'est des méthodes qui étaient les leurs lorsqu'il il était avec eux. Aujourd'hui, quand il les dénonce, c'est un non-événement. Donc, alors, les jeux de dames, non. Le problème, c'est quoi? Nous avons dit, comme la semaine dernière, recul de la démocratie, je viens de le dire aujourd'hui, recul de la démocratie. Les Nations Unies ont dit la même chose, recul de la démocratie. On va aux élections sur base d'un programme de quelqu'un, on va élire quelqu'un sur base d'un programme. Même quand on est à l'école primaire, pour être chef de classe, on exerce les gens à ne serait-ce que dire un petit mot, pourquoi vous voulez que je sois le chef de classe. Voilà, moi je vais dire, par exemple, bon, je ne laisserai jamais quelqu'un qui va déranger pendant que monsieur le professeur est en train de donner son cours, et toutes ces personnes-là, je vais les dénoncer et tout ça là. Alors quelqu'un va dire, ok, là on applaudit parce que ces messieurs voudraient la discipline. Mais ici c'est quoi? Récule de la démocratie. Parce que on va élire ces gens, non pas parce qu'ils ont présenté de programmes pour pouvoir aider la population, parce que ce sont des élus de la population. Alors, quand ils, entre eux, ils ne peuvent pas aller sur base des discours alors, qui permettent justement que les uns et les autres se fassent confiance pour que l'élection ait une certaine légitimité. Mais
rapidement, c'est pas du recul, ça? Rapidement, Innocent, comment vous expliquez la maintenance ou la persistance du MLC dans cette élection? Apparemment, ce n'est que le MLC, le parti de l'opposition, qui a réussi à rafler quand même quelques présidences, trois présidences.
Mais on va dire bravo au MLC. On va dire bravo parce que bon, ils sont venus, ça, contrairement à ce que j'avais entendu l'autre fois là. Mais quand on décrit les élections, mais en même temps on y va. Mais oui, on ne peut pas appliquer.
Tous les autres partis de l'opposition ne sont pas allés.
Oui, mais le MLC s'est assumé. Il est allé et alors il a réussi. Et on sait aussi qu'il y a quand même l'aide du contexte géopolitique à ce niveau-là qui joue dans la plupart de cas pour le MLC. Quand on est à l'Équateur, ça n'étonne pas forcément. Mais le plus important, c'est qu'il y a eu quand même la présence de l'opposition à ce niveau-là pour sauver ne fût-ce qu'un petit doigt de la démocratie. Parce que sinon, ça sera ce que l'on a dit. Hein. Il n'y a que la majorité, la seule majorité, qui fait la politique pour la politique et non pas la politique pour être au service de la population.
D'accord. On va conclure cette émission avec la dernière question que je veux poser à chacun d'entre vous. On va répondre tous à cette question. Est-ce que cette élection augure-t-elle un bel avenir du processus électoral dans notre pays, Élisée?
Oh, c'est un peu difficile parce que c'est pas l'élection que tout le monde attend quand même. L'élection que tout le monde attend, c'est la présidentielle et les législatives. J'ai eu à faire un papier par rapport à cette rentrée en disant est-ce que nous sommes, c'est l'avant-dernière session ordinaire des assemblées nationales ou est-ce que c'est parti pour une autre prolongation, surtout au niveau du Sénat. Le mot, je ne permets pas de le dire, mais on peut le dire. C'est pas tellement l'élection, d'autant plus que reste à savoir c'est pour combien de temps c'est gouverneur, si demain ou après-demain la CENI arrivait à nous dire, à fixer la date pour l'élection des députés provinciaux, ils sont là pour combien de temps, mais arriver à déterminer la suite du processus électoral. Par rapport à ces élections, je crois que c'est un peu trop tôt.
D'accord, merci beaucoup, c'est votre conclusion. Baudouin, à vous.
Une parenthèse, le jeu de dames
très rapidement
ne signifie pas le désordre. Hein, le jeu de dames signifie le croc à jambes qu'il peut y avoir en politique à tout moment. Je
D'accord.
fais la comparaison avec ce qui se passe au stade, n'est-ce pas? Je fais la parenthèse. Les élections de président des assemblées provinciales et demain, les députés vont élire le gouverneur, c'est provisoire. C'est provisoire parce que les députés provinciaux aujourd'hui sont déjà hors mandat, mais nous attendons que le cycle reprenne calmement dans le bon sens. C'est-à-dire que demain, nous voulons les élections de députés provinciaux, lesquels vont élire des gouverneurs qui feront 5 ans. Aujourd'hui, c'est encore provisoire. Les décideurs politiques sont en train de mettre tout doucement de l'ordre au niveau des provinces. Merci. Pour qu'il n'y ait pas vacances de pouvoir. Voilà.
Merci. En conclusion, voilà. Innocent.
Ces élections, c'est du saupoudrage. C'est juste pour faire plaisir au monde extérieur. Parce que la majorité se sent très acculée, notamment par les partenaires extérieurs. On dit que, il ne faut pas qu'on dise quand même que nous ne voulons pas des élections. Mais non, là, nous sommes en train de gagner les élections. Mais elles pêchent en même temps parce qu'elles cherchent à s'accaparer des résultats de ces élections-là. Et donc, moi, je crois que l'avenir est toujours sombre. Il faut faire un effort pour qu'on sensibilise davantage le processus d'Addis Abeba, qui nous permettra d'avoir alors le dialogue qu'il faudra pour peut-être tenter de trouver la solution au problème du Congo.
Merci beaucoup. Ce sera la fin de la tribune de presse pour ce soir. André Mongou était aux commandes techniques. Kéline Kouté a coordonné cette émission supervisée par Julien Yamouni. Mary Franklin Louchaka vous dit merci de nous avoir suivis. Remarquez, suggestions, envoyez-nous un mail à dec@radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.